écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 27 mai 2013. Alors, des jours heureux au printemps français, si l'on peut dire. Les jours heureux, eh bien, c'était ceux qui ont pu suivre le 27 mai 43. Enfin, pas tout de suite, hein, quand même. Le jours heureux, c'était le titre du document issu du Conseil national de la Résistance qui s'est réuni pour la première fois le 27 mai 43 à l'initiative de Gaulle qui avait mandaté Jean Moulin pour tenter une réunification de la résistance française, ce qu'il a pu faire lors de cette réunion, mais ce qui n'a pas été vraiment totalement acquis jusqu'à la fin de la part des différents groupes qui avaient chacun leurs objectifs, leurs troupes, et quelquefois des antagonismes assez sévères entre eux. Mais enfin, il fallait bien à un moment donné, pour faire basculer la situation, que tout ce monde se regroupe, alors à la fois dans l'action et puis aussi dans la réflexion, puisque de cette réunion et du travail des réunions du Conseil national de la Résistance, il y avait 19 personnes ce jour-là en plein Paris, ce qui était quand même gonflé, on va dire, hein, parce que c'était pas sans risque. Après l'arrestation de Moulin, qui a eu lieu quasiment un mois après, on a pris des précautions et on a fait les réunions avec beaucoup moins de monde, et donc elles se sont multipliées. 70 ans, jour pour jour, 27 mai 43, 27 mai 2013. Robert.
Oui, faire peut-être un raccourci rapide, mais pas déplacé. Simplement pour rendre un hommage, comme on continuera de le faire, parce que ça fait partie des chants qui nous aident à vivre et peut-être à aller plus loin. C'est la révolution permanente. Le Conseil national de la Résistance aurait pu peut-être être l'élément détonateur pour la révolution permanente. Alors, on a compris, je fais allusion à la chanson de Youssef Moustaki, Georges Moustaki, qui maintenant est au Père Lachaise, pas loin d'Édith Piaf. Ça s'est passé cet après-midi et voilà, donc Moustaki n'est plus là, mais il est toujours là, et la révolution permanente, eh bien, il faudra bien peut-être un jour la faire, sans forcément pour ça être trotskiste. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai lu un peu ce qui est dit aujourd'hui, et depuis quelques jours d'ailleurs, on parle de Moustaki, mais on oublie toujours son engagement politique à gauche, même très à gauche, à l'extrême gauche on peut dire, et que beaucoup de ces thèmes sont liés, Sacco et Vanzetti et d'autres, c'était quelque chose, mais on est discret, et le commentaire d'aujourd'hui sur ses obsèques ne fait pas du tout, ne parle que des chansons qui sont les chansons grand public, mais pas du tout vraiment de ces chansons engagées. Même le Metec, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une chanson engagée au sens plein du terme. On peut rappeler que Moustaki, c'était par exemple lors des dernières élections présidentielles, avait signé pour Poutou, le candidat du NPA. Mais toutes ces choses-là, c'est un peu... c'est passé sous silence ces jours-ci.
Oui, bah pour en dire encore un mot, le Metec, c'est quand même devenu une chanson engagée quelque part, on peut dire une chanson antiraciste, quoi. Et puis elle a été instrumentalisée aussi de cette manière-là, de cette bonne manière-là, par Mélina Mourkouri en Grèce, donc après elle est revenue en France. Voilà, enfin, beaucoup de choses à dire. Puis ça se bouscule au Père Lachaise, hein, parce que dans la même journée, aujourd'hui est décédé Guy Carcassonne, hein, éminent constitutionnaliste français. Donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler. On attaque l'international ?
Oui, oui. Avec, si tu veux que j'ouvre ?
Oui. Oui.
Avec une bonne nouvelle, oui.
Ah bon, bonne nouvelle, il y en a.
La bonne nouvelle, c'est une nouvelle naturellement qui est provisoire et qui ne demandera qu'à non pas être confirmée, mais complétée par d'autres bonnes nouvelles sur le même sujet. C'est en fait la négociation entre le gouvernement colombien et les FARC, Force Armée Révolutionnaire Colombienne, des négociations qui se passent à La Havane et qui est on va dire, sous le patronage à la fois de Cuba et de la Norvège. Et aujourd'hui, enfin plutôt hier, mais on va dire que c'est tout à fait de quelques heures que ça date, un premier accord vient d'être conclu et il porte sur le chapitre qui avait été un peu à l'origine de l'insurrection des paysans et des paysans sans terre, c'est un peu comme ça qu'on les a appelés par la suite, mais des paysans sans terre en Colombie, puisque faut rappeler que la moitié des terres en Colombie sont détenues par 1% de la population. 50% des terres, 1% de la population. Donc cette révolution, dont une des figures importantes avait été en son temps, hein, ça remonte à plusieurs dizaines d'années, un prêtre proche effectivement de la théologie de la libération et donc proche des révolutionnaires, c'était Camilo Torres. Et c'est un peu dans cette suite-là, il y a un autre mouvement révolutionnaire qui aussi cherche à entrer aujourd'hui dans la vie politique, on va dire, traditionnelle, ce qui est la demande des FARC. Premier accord, donc, qui serait intervenu. Alors, c'est un accord qui ne porte pas, c'est pas la révolution agraire, hein, mais c'est quand même important parce qu'il porte sur des centaines de milliers d'hectares qui sont non cultivés. C'est pas qu'ils sont incultes, certains le sont, sont pas cultivables, mais la plupart ne le sont pas, mais ils sont chasse gardée des propriétaires, et donc c'est des terres qui ne servent à rien, et donc la réforme prévoit que ces terres seront octroyées aux paysans sans terre qui sont demandeurs. C'est une demi-réforme dans la mesure où on ne fait que constatant une carence des grands latifundaires colombiens, eh bien, on décide de faire que ces terres, dorénavant, deviendront utiles. Bon, c'était difficile parce qu'effectivement, ça remet en cause le lobby des propriétaires, mais c'est fait. Alors, on se satisfait, on peut trouver que le nouveau président Santos de Colombie, qui paradoxalement était le ministre de l'Intérieur, je crois bien, ou même de la Défense de l'ancien président, et donc qui est à la tête des forces de répression, eh bien, il a un comportement tout à fait différent de son prédécesseur, bien que élu sur les mêmes slogans et par le même électorat en sautant. Donc, faut pas s'en plaindre. Faut simplement espérer que les prochaines étapes. Bon, déjà, les FARC ont annoncé qu'il n'y aurait de toute façon pas d'accord final. S'il n'y a pas un accord global. L'accord global, il porte sur d'autres points, c'est-à-dire les points les plus importants, ce seront aussi les garanties judiciaires qui pourront être apportées à tous les prisonniers, tous ceux que la justice telle qu'elle est veut soit maintien en prison, veut condamner pour ceux qui ne le seraient pas. Ça pose la question effectivement de l'avenir des plusieurs milliers, 10 000 guerrilleros qui sont encore sur les terres qu'ils occupent et auxquels il faudra sans doute, comme on l'a fait dans d'autres révolutions et puis d'autres fins de guerre civile, qu'il faudra intégrer d'une manière ou d'une autre, sans doute dans les forces militaires colombiennes. Ça sera sans doute difficile, bien que cet accord sur une attribution des terres non cultivées était un symbole fort, et que ce symbole étant finalement sur le point de recevoir l'accord du pouvoir colombien, constitue une étape qui s'est ouverte. C'est au mois de novembre, hein, ça date, mais quand même 5-6 mois, 1er novembre 2012 à La Havane, Et la prochaine étape, eh bien, ça va démarrer dans quelques jours, le 11 juin, et donc elle porterait cette étape sur le problème juridique et judiciaire, sachant qu'il y a déjà eu une réforme constitutionnelle qui a créé en Colombie une certaine situation ouvrant en quelque sorte des droits un peu comme une amnistie judiciaire, quelque chose qui irait dans ce sens-là et qui permettrait effectivement de solder, bon, c'est pas pour demain sans doute, mais de solder ce passé de la lutte, et ensuite les FARC s'organisant en partis politiques comme les autres.
Voilà pour ce sujet. On va peut-être dire quelques mots de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui fêtait ses 50 ans. C'est pas mal, 50 ans pour un
organisme. Qui s'appelle l'UA maintenant, hein, depuis 2002. Mmh.
Alors, ça se passait en Éthiopie. Bon, bien placé, Addis Abeba. Et finalement, il y avait un certain nombre de chefs d'État africains, mais peu. Alors, je ne sais pas si Hollande a eu le privilège d'être invité ou si c'est un peu poussé du coude pour être le seul à être là-bas, dans les Occidentaux européens, mais ça a été le cas. Il y avait Mme Rousseff, il y avait Barroso pour l'Union européenne. Bon, il semble que ça a intéressé les politiques du pays, les responsables à ce niveau-là. Mais que, par contre, au niveau de la population, ça n'a eu qu'un écho extrêmement faible, quoi. Et que même les gens qui étaient venus assister, peut-être un peu poussés par on ne sait pas trop qui, à la commémoration, se sont barrés assez vite. Et que finalement, les discours de ces grands du monde se sont faits devant des caméras de télévision et pas grand monde d'autre, quoi. Mais bon, le symbole est quand même là. Et alors, l'Union africaine vise son développement économique, toujours, bien entendu, c'est bien normal. Et puis, il traite aussi des questions qui l'inquiètent, c'est l'avancée, le rôle de l'islamisme dans le continent africain aujourd'hui. Et c'est pas Hollande qui allait les contrarier sur ce sujet, bien sûr. Voilà, tu voulais en dire plus, Robert ?
Oui, c'était... Il y a 54 pays hein, qui sont dans l'Union africaine, et que ces quatre pays, alors une grande partie, à peine la moitié, est francophone, et l'autre moitié est anglophone et lusophone. Donc... Quand Hollande va là-bas et que la presse française donne l'impression que c'est le grand chef blanc qui finalement est l'interlocuteur numéro un de l'Afrique, évidemment on se trompe lourdement, parce que en plus certains grands pays sont plutôt anglophones que seraient en grande partie anglophones, Nigeria, Afrique du Sud, Burundi, etc. Bon. Et ce que tu as dit, effectivement, c'est une réunion importante qui met bien le point sur la dépendance du continent africain, puisque 40% des budgets, l'ensemble des budgets, seulement 40% est assuré par les pays eux-mêmes et 60% proviennent des aides extérieures, l'Union européenne, les grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale, qui naturellement, on sait les ravages qu'elles provoquent par leur ligne, la ligne politique et financière qu'elles développent en Afrique. Il y a eu ce geste très fort, effectivement, d'un des représentants des BRICS, hein, et des BRICS, il faut rappeler donc que c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Les BRICS qui représentent effectivement les grands pays qui sont actuellement en grand développement. Et l'Afrique et la brésilienne Dilma Rousseff, effectivement, a fait cadeau de 900 millions de dollars de dettes qu'elle a annulées, dettes que l'Afrique, enfin les pays d'Afrique, je ne sais pas le détail de qui était endetté par rapport aux Brésiliens, mais 900 millions, il ne faut pas que j'exagère, c'est des millions, ce n'est pas des milliards, 900 millions de dettes qui sont effacées par les Brésiliens. Ça s'est passé à Addis Abeba, donc Addis Abeba qui actuellement est la capitale de résidence de l'Union africaine, l'Union africaine qui est présidée par une Sud-Africaine, hein, et qui un dernier mot pour signaler que le si comme disait dans un discours néocolonial Sarkozy, l'Afrique est en retard, eh bien, elle va sans doute rapidement combler son retard, mais ça ne se fera pas forcément toujours dans un sens d'une meilleure répartition. Ça sera peut-être effectivement pour mettre en difficulté l'Europe et les continents nord qui ont été les colonisateurs d'antan, puisque beaucoup de pays de cette Afrique développent un taux de croissance. Alors bon, la croissance, je ne sais pas ce qu'elle est, hein, si c'est la croissance telle qu'on la condamnerait aujourd'hui, parce que finalement elle conduit droit dans le but, dans le mur, mais c'est une croissance qui est quand même utile compte tenu de l'état de pauvreté qui subsiste en Afrique, mais c'est des taux de croissance de 5 à 10%. Alors c'est quand même important, c'est une Afrique qui incontestablement bouge. Alors là-dessus, le discours de Hollande, on a compris simplement qu'il était venu pour demander que les Africains prennent la relève, notamment au Mali, mais au Niger, et puis donc finalement...
Il est un petit peu venu pour se faire applaudir aussi.
Oui. Voilà, c'était... Alors, sur le développement même... Il n'a pas dit grand-chose, d'ailleurs, il n'est pas resté longtemps.
Bah, politiquement, il a quand même fait une déclaration, mais enfin, ça ne coûte rien, ce genre de déclaration. Néanmoins, elles sont toujours moins désagréables que celles de Sarkozy, disant que la France ne devait pas se substituer aux pays africains dans la conduite de leur destinée. Bon, alors, voilà quoi. On sait ce qui s'est passé militairement, mais voilà. Allez, autre sujet peut-être, il faut qu'on avance un peu. Ben, la Syrie, c'est quand même un sujet incontournable, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'informations et d'agitations diplomatiques et militaires ces jours, puisque certains préparent une grande conférence internationale en juin à Paris. Pour le moment, on se bagarre pour savoir qui pourra y être et qui y viendra si... qui y vient. En clair, si l'Iran y vient, c'est pas forcément souhaité par tout le monde. Et s'il vient, qui ne viendra pas? Qui représentera l'opposition syrienne? Qui représentera le pouvoir? Est-ce que ce sera Bachar lui-même ou est-ce qu'il enverra des émissaires plus acceptables pour discuter? Donc il y a tout ça. Au moment où aujourd'hui aussi l'Union européenne se posait à nouveau la question de l'embargo sur les armes, alors est-il urgent de l'abolir ou au contraire d'attendre? Révélation par ailleurs du côté de certains journalistes du Monde, ça concerne plus la France qui est sensibilisée, sur l'utilisation confirmée de gaz de combat. Bon, je ne sais pas si les gaz de combat font plus de morts que les obus et en quoi ils sont plus odieux, mais enfin c'est comme ça. Ça, c'est un sujet qui sensibilise davantage à la fois les états-majors et l'opinion publique, je ne sais pas. En tous les cas, on savait bien, et c'est une fois de plus confirmé, que ces gaz toxiques étaient utilisés. Voilà, un conflit qui s'exporte aussi au Liban, puisque deux roquettes sont tombées sur la banlieue de Beyrouth et que Nasrallah, le représentant du Hezbollah libanais, revendique publiquement son soutien aux troupes de El-Assad pour reconquérir certaines régions. Ainsi, l'aéroport d'Aba a pu être repris. Donc, sur le terrain militaire, en somme, une une avancée de Bachar el-Assad et puis l'opposition qui continue de se déchirer pour savoir qui est le plus représentatif de tout le monde, sachant que ce déchirement se fait entre à la fois ceux qui sur le terrain combattent, qui sont souvent des... pas souvent, mais dont une partie sont des radicaux islamistes, et puis ceux qui, à l'étranger et de loin, se revendiquent représentatifs, et où là, on trouve toutes sortes d'organisations, y compris des organisations laïques, des Kurdes et autres, quoi. Alors, certains rêvent pour cette conférence de Paris d'un scénario à ce qui s'était passé en 91 à Madrid, entre Palestiniens et Israéliens, où les Russes et les Américains, mettant tout le monde en face dans une salle, avaient, paraît-il, estimé avoir fait avancer la cause de la paix qui, à l'époque, a débouché sur les accords d'Oslo. Mais tout ça, c'est des vieux souvenirs un petit peu effacés par la suite de l'histoire.
Oui, à propos de la conférence internationale, dont on dit qu'elle pourrait résulter d'un accord en cours de discussion entre Russes et Américains. Cette conférence internationale, elle aurait sans doute qu'une seule visée, c'est de rendre possible des élections démocratiques présidentielles l'année prochaine, puisque c'est la fin du mandat de Bachar au printemps prochain en Syrie. Alors évidemment, dans le contexte d'aujourd'hui, ça paraît presque utopique de penser pouvoir organiser une consultation complètement démocratique, mais à la fois à cause des deux camps, aussi bien du côté de ceux qui derrière Bachar veulent le maintenir coûte que coûte au pouvoir, que du côté des tenants d'un islamisme radical qui ne veulent pas du tout entendre parler de ça, qui veulent prendre le pouvoir sans passer par des élections. Donc, c'est quand même ça qui est peut-être le contenu possible de cette conférence internationale le mois prochain. Ce qu'on peut dire aussi, ce que tu as déjà un peu développé, que la participation du Hezbollah qui a surpris, y compris c'est ceux qui sont favorables à la lutte que mène le Hezbollah contre les occupants voisins de Cisjordanie israéliens. Le Hezbollah qui participe aux côtés des forces de Bachar, mais qui essaye de verrouiller la frontière du côté du Liban, empêcher effectivement que des osmoses se fassent et qui seraient déplorables. Alors évidemment, ça provoque quelques secousses à l'intérieur du Liban, on l'a vu avec quelques accrochages entre sunnites et chiites. C'est pas très grave pour l'instant, ça peut le devenir, mais c'est pas forcément évident. On a un peu la même situation du côté de l'Irak où les représentants de Bachar discutent avec Maliki pour là aussi un peu verrouiller la frontière. Empêcher que se fassent effectivement des entrées de gens qui viendraient simplement au nom du djihad soutenir un camp, une partie des rebelles. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est cette déclaration, on ne sait pas si c'est une rumeur ou si c'est du on-dit, ce qui est la même chose qu'une rumeur d'ailleurs, c'est que finalement les Israéliens sont très perplexes. Effectivement, ils pensent que finalement à tout prendre, vaut peut-être mieux Bachar que n'importe quel autre pouvoir à Damas. parce que Bachar, ils le connaissent bien. Il y a eu des accrochages très forts, on le sait bien. Mais les Israéliens constatent que finalement, par exemple, Bachar n'a jamais tenté de reprendre le Golan. Ce que ferait sans doute un autre pouvoir qui s'installerait à Damas, qui estimant que le Golan, ça fait partie de la Syrie, et que donc, voilà, et que on peut s'entendre peut-être mieux avec un ennemi comme Bachar qu'avec des ennemis qui eux-mêmes sont très divisés, certains de leurs ennemis étant soutenus les uns par les Égyptiens, les autres par les Koweïtiens et d'autres encore par les Saoudiens, ce qui ne faciliterait pas la tâche d'Israël qui a envie de rester simplement sur ses positions, qui n'a pas du tout envie de reculer sur la stratégie qui est la sienne, c'est-à-dire on occupe la Cisjordanie et on n'en sort pas, malgré les promesses financières faites par l'envoyé spécial d'Obama encore ces jours-ci.
Oui, qui s'est vu la veille de son arrivée réaliser la régularisation de 4 colonies sauvages. Autrement dit, c'est leur provocation habituelle la veille d'un moment où on pourrait penser qu'il faut adopter un profil bas et mettre la pédale douce. Ils mettent un grand coup d'accélérateur sur la colonisation au moment où l'Américain arrive. Comme ça, il est compromis dedans et c'est très bien, je pense, comme ça qu'il voit les choses. Voilà, USA, on en parlait un peu. On peut dire qu'Obama semble fatigué de se battre contre le terroriste et qu'il est peut-être prêt à chercher maintenant à sortir du piège de Guantanamo. C'est son premier grand discours contre-terroriste depuis 2 ans. Et il constate aussi que le terrorisme, pour le moment, enfin ce qu'ils appellent le terrorisme, c'est ces actes plus ou moins isolés d'agression, changent de forme et on n'en est plus à abattre le World Trade Center, mais peut-être plutôt à des actes plus individuels qui, grâce à la médiatisation, finalement font le même effet politique que des actions militaires plus fortes, mais orientées uniquement sur des forces d'ordre ou de police ou d'armée. Voilà, d'autres sujets que tu voulais traiter, Robert, peut-être
J'ai évoqué ce qui se passe en Inde. C'est pas nouveau, il y a eu déjà des actions de la guérilla dite maoïste. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi on continue de l'appeler maoïste, Mao n'étant plus là et plus personne sur la planète défend l'héritage, vraiment l'héritage intrinsèque, hein. Il y a toujours effectivement des choses qui peuvent rester. Bon, on les appelle les maoïstes. Les maoïstes naxalites, hein, donc c'est une partie centrale de l'Inde. Et ce mouvement de guérilla qui existe depuis les années 60 a tendu une embuscade au parti du Congrès qui est au pouvoir, et ça fait des dégâts puisque bombes plus mitraillage, plusieurs dizaines de morts et de blessés. Ce mouvement de guérilla, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il fait un peu ce que faisait sur d'autres continents le FARC combien, c'est-à-dire ils se battent sur la terre, à propos de la terre, et c'est pour que les paysans sans terre indiens récupèrent des terres ou surtout n'en perdent pas, parce que le développement non organisé de l'industrialisation en Inde, c'est-à-dire un développement sauvage, fait que on confisque à tour de bras. Alors le paysan très pauvre, on lui propose quelques sous, il les prend, et puis il se retrouve soit à venir s'agglutir, je ne sais plus comment on dit, dans les bidonvilles des grandes cités d'Inde, ou simplement devenir un pauvre parmi les pauvres de plus sur cette terre très contrastée où il y a beaucoup de gens très riches et beaucoup de gens très pauvres qui s'appelle la fédération indienne. Voilà, alors on se souvient qu'au mois d'octobre il y avait eu une grande marche, plus de plusieurs dizaines de milliers, on avait dit 35 000 paysans pauvres sans terre avaient justement marché sur New Delhi, je crois, et pour obtenir des promesses de réforme agraire. Alors, ces promesses n'ont-elles pas été tenues, ou le mouvement de guérilla ne se sent-il pas concerné par les acquis de l'accord qui serait intervenu à cette époque? Toujours est-il que c'est un conflit pour la terre qui est loin, semble-t-il, d'être terminé.
Voilà, on fait une pause musicale où on parle encore d'autres choses.
J'ai vu qu'il y avait des élections, mais j'ai cherché des résultats, je ne les ai pas trouvés. Des élections municipales en Italie. C'était important, après ce qui s'est passé, les dernières élections législatives, mais j'ai rien vu. Alors, je ne sais pas si toi, tu as trouvé quelque chose.
Non, mais peut-être que les dépouillements ne sont pas terminés, je ne sais pas comment ils vont.
On verra ça la semaine prochaine, nos autres camarades des jours prochains traiteront la question, peut-être.
Allez, pause musicale, petit clin d'œil à Moustaki, qui a sans doute beaucoup fumé, mais qui ne fumera plus, et qui avait rendu hommage à cette question.
Il y a des chansons qui reviennent, comme revient le mois de mai. Chansons d'amour vieille rengaine, où toujours rime avec jamais. Je veux sur la même musique parler du monde d'aujourd'hui, mi souriant, mi nostalgique, conclure en déclarant ceci. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Oui, je voudrais en quelques strophes livrer messages et discours, et être un nouveau philosophe en allant chanter dans les cours. Avec mon piano à bretelles, j'irai de pays en pays répandre la bonne nouvelle et faire un peu d'écologie. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Et si par malheur je m'essouffle à vouloir tout dire en chantant, je me mettrai dans mes pantoufles, je m'arrêterai quelque temps. Mais comme revient l'hirondelle un jour à la belle saison, je reviendrai à tire-d'aile célébrer pelouse et gazon. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher.
résumé.
Voilà, Georges Moustaki, pour sa dernière fumette, vous a interprété « Heureusement qu'il y a de l'herbe ». Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 27 mai 2013, avec Robert en duplex et Jean-Pierre dans les studios, et nous abordons la rubrique nationale avec une semaine sociale passée, là, pas très chargée, hein, c'est ça, ouais,
peut-être chargée, puisque finalement, semble-t-il, aucun des conflits en cours, notamment on pense à tous les plans sociaux ou les plans de sauvegarde d'emploi. Bon, on comprend que bon, les tribunaux de commerce sans doute hésitent à prononcer des sentences radicales définitives. Bon, ils l'ont fait sur certains gros sujets. Parce que derrière, tout de suite, on a prétendu mettre en place des plans de sauvegarde ou des plans sociaux. Mais en général, ça traîne plutôt. On laisse encore entendre que sur tel ou tel dossier, il y a des repreneurs en vue, que les tribunaux de commerce allongent les délais quelquefois. Bon, tout ça pour tenter de colmater la réalité, à savoir que d'une part, le gouvernement Hollande n'a pas de pare-feu à la poursuite de la montée du chômage à travers ces réductions d'emplois ou carrément ces fermetures d'usines ou ces usines qu'on va délocaliser. Et bon,
je ne sais pas comment il va s'en sortir, Hollande, mais il annonce toujours publiquement qu'à la fin de l'année, le chômage aura diminué. Et les gens de Pôle emploi, eux, annoncent tout aussi assurés qu'il y aura 17 000 chômeurs de plus. Quoi. Alors, quadrature du cercle, cette affaire, et on ne voit pas quelles mesures d'État pourraient soudainement bloquer cette montée du chômage au moment où les plans s'amoncellent. Quoi. Et en plus, le déficit de 4,3 milliards de l'UNEDIC devrait passer à 5,6 en 2014, ce qui laisse rien présager de bon pour 2014. D'ailleurs, Virgin va fournir son lot de chômeurs, puisque ce coup-là, c'est bien clair, c'est fini. Il y a 6 millions d'euros pour les partants ou les licenciés. Ils en réclament 15. Il n'est pas évident que 15, qui ne ferait d'ailleurs que 15 000 euros par salarié de prime de licenciement, eh bien, c'est pas gagné. Quoi. Pour ce qui est de Lyon, on devrait récupérer un Zara à la place de Virgin. Zara qui, comme on le sait, fait entre autres fabriquer ses excellents et merveilleux produits au Bangladesh.
Bangladesh, d'accord. Bon. On voit ce que ça peut signifier, oui. C'est peu sur ce fond.
Oui, c'est pas l'armée qui va remonter non plus les chômeurs, puisqu'il parle de supprimer 24 000 emplois. Hein, il y en avait déjà eu 78 000 en quelques années. Donc, du coup, le général Deport s'énerve un peu et hurle à la diminution des forces conventionnelles qui n'assureront plus la défense de la nation. Hollande, lui, arme le nucléaire tout azimut. Il mise tout sur s'il pouvait supprimer tous les fantassins et ne garder que des ogives nucléaires. On a l'impression que c'est un petit peu son rêve. Donc les militaires ne voient pas tous les choses de cette manière-là. Oui, tu avais... T'es parti
oui,
sur quelque chose.
Un peu sur ce fond social très très désagrégé, la dernière indécision gouvernementale qui était sans doute plus symbolique qu'autre chose, parce que effectivement on voit pas vraiment comment, sauf à avoir vraiment une politique interventionniste en matière économique et financière, mais la dernière décision c'était de ne pas légiférer sur les salaires des PDG du secteur privé. Donc c'était une promesse de Hollande, mais finalement Moscovici, il l'a pas décidé tout seul, mais Moscovici a annoncé qu'on n'en ferait rien, que le MEDEF s'était autodiscipliné lui-même, qu'il allait publier une charte et donc prier ses PDG de ne pas profiter des résultats de leur entreprise pour s'en mettre plein les poches. Au détriment d'ailleurs, ce qui est curieux, ça c'est une presque bataille interne au capitalisme, c'est-à-dire que le fonctionnement du capitalisme en France, il impressionne beaucoup les anglo-saxons qui, en matière de fonctionnement capitalistique, en connaissent pourtant un rayon, mais ils s'aperçoivent que finalement, les actionnaires en France n'ont pas de pouvoir. Et que dès lors qu'on leur assure du 10 ou 15%, ils ne s'occupent plus du tout de ce qui se passe dans la société, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout comme ça que fonctionne le capitalisme. Où là-bas, on l'a vu aux États-Unis, on demande des comptes, on fait démissionner des PDG si ça plaît pas aux actionnaires, etc. Et pas forcément des grands et des petits actionnaires. Bon. En France, le pouvoir financier patronal est pratiquement calqué sur le pouvoir politique, c'est-à-dire que à la tête des entreprises, on pense surtout aux grandes, mais finalement ça se peut se passer de la même chose dans les moyennes entreprises, PME, etc. À savoir que il y a des patrons tout puissants. Et qui font ce qu'ils veulent et qui se payent comme ils l'entendent dès lors qu'ils assurent à leur conseil d'administration et aux actionnaires un certain revenu. D'où effectivement cette pratique sauvage qui est quand même en France c'est un capitalisme qui est vraiment à une étape que sans doute les pays anglo-saxons, pays du libre-échange, etc., du tout capitalisme ont connu. Mais pour eux, ils ont mis un peu d'ordre là-dedans. Eh bien, en France, non, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a cette toute-puissance patronale. Alors donc le gouvernement, il accepte ça et il donne toute puissance politique et toute puissance patronale et dit le MEDEF, eh bien il a fait une charte pour essayer d'être plus raisonnable dans ce domaine-là. Alors on va voir.
Allez, un peu de nucléaire jeudi à Bures-sur-Yvette, ça vous dit quelque chose, Bures-sur-Yvette, si vous avez des souvenirs d'antinucléaire. Il y avait un débat d'organiser sur le projet d'enfouissement, un projet qui vient de loin, mais qui continue quand même d'être porté et prévu. Quelques dizaines d'opposants ont fait tellement de foin que la réunion a fini par être annulée. Ce projet vise à mettre sous terre, dans des couches argileuses, 100 000 mètres cubes de déchets à haute et moyenne radioactivité. C'est pas rien, 100 000 mètres cubes, hein, sous prétexte que dans cette zone-là, il n'y a pas de danger pour les fuites dans les couches souterraines. À voir, quoi. Tous les cas, tout le monde n'en est pas persuadé. Et c'est un laboratoire d'essai, mais il est question d'étendre, de creuser, de faire des galeries et de venir y déposer. Bonne chance à nos successeurs, à nos héritiers pour récupérer les problèmes et l'assainissement de cette grande poubelle si jamais elle se réalise comme elle est programmée pour le moment. Quelques mots quand même des manifs d'hier, donc des manifs qui n'en finissent pas de finir. Ils étaient 150 000 selon la police, 1 million selon les autres, mais un front anti-mariage gay qui se disloque, puisqu'il y avait quatre manifestations qui convergeaient. Elles convergeaient pas géographiquement, mais pas tellement idéologiquement, c'est pour ça qu'il y en a quatre. Et puis là au milieu, Copé qui a rangé les foules pour distribuer ses bulletins d'adhésion à l'UMP, tout en disant qu'il n'est pas question de rien récupérer. Tiens donc. Donc la prochaine étape, la loi étant votée, eh ben, c'est mardi. On peut penser que le premier mariage célébré à Montpellier ne se passera peut-être pas dans la quiétude et la tranquillité que pourraient le souhaiter les jeunes épousés. Voilà. Alors des actions d'extrême droite là au milieu, puisqu'on le savait, les identitaires montaient en pression dans ces manifs. C'est pas tellement peut-être qu'ils sont opposés au mariage gay, mais ils voient surtout là un moyen de s'agiter, de s'exciter, de s'amuser et d'entraîner avec eux quelques casseurs. Il semble que les flics en nombre, quelques 5000 flics hier, ont réussi cette fois à contenir le groupe et à obtenir la dislocation assez tard dans la nuit sans problème majeur.
Oui, avec quand même cette apparition très, très politisée de l'extrême droite traditionnelle en France. Le petit groupe, alors, sans doute pas représentatif, mais quand même, ils étaient bien là, qui ont escaladé la terrasse du siège du Parti Socialiste et qui, de là-haut, ont effectivement brocardé le Parti Socialiste, le traitant de tous les noms, réclamant la démission de Hollande. Bon, ceux-là, ils étaient quand même bien là dans la manifestation aussi. Alors, on a bien compris comment, d'une certaine manière, Copé pouvait utiliser ça comme peut-être leur effet Sarkozy. Et en même temps, en le faisant, il met en difficulté le Front National, parce que peut-être que des gens disent « Ah, ben tiens, finalement, nous, fascistes, c'est plus facile de travailler avec Copé qu'avec Marine Le Pen », ce qui est effectivement un paradoxe de premier ordre.
Oui, Marine Le Pen qui redevient un peu plus raisonnable depuis qu'elle est tombée sur les fesses. Peut-être que ça lui a mis à la raison, puisqu'elle a déclaré qu'il fallait en finir avec ses manifs. Peut-être qu'elle a peur aussi de se faire déborder sur sa droite. C'est difficile, mais il y en a qui y arrivent. Et qu'elle pense en plus, compte tenu des divisions sur la question au sein du FN, que plutôt on passera à autre chose, mieux ce sera, quoi.
Ah ben elle prépare elle aussi les élections municipales de l'année prochaine. Elle semble très 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 branchée sur ce dossier, ce qui était le cas de son père. Mais bon, son père c'était le personnage effectivement de l'extrême droite traditionnelle qui n'en faisait pas des tonnes sur les élections municipales et toutes les élections générales, alors qu'elle, elle n'est pas du tout dans ce raisonnement-là. Et à propos de municipales, eh bien voilà, c'est parti. Les communistes se réunissaient cette fin de semaine dernière. Et ben, ils ont dit que de toute façon, ils ont programmé les villes, une quarantaine de villes de plus de 3500 habitants, je crois, qu'il faudrait soit conserver, soit gagner. Alors pour ça, eh bien, il faudra aller sans doute très loin dans les discussions à la base. Aller très loin, ça veut dire aller très loin avec les socialistes et d'autres. Et que pendant cette période-là, sans doute, le Parti communiste va s'affranchir de ce que pouvait être le contenu de rupture du programme du front de gauche. On ne sait pas du tout, d'ailleurs, comment va vivre, pour ne pas dire survivre, le Front de gauche dans la période qui vient, mais il y a sans doute un moment où ça va être très très problématique. Et puis deuxième réunion des instances dirigeantes, ce sont celles des écologistes, Europe Écologie Les Verts, en Conseil fédéral, qui bon, n'ont pas forcément beaucoup parlé d'élections municipales, mais qui par contre, pour préparer le terrain, ont signifié aux socialistes que ce qui était fait, c'était nettement insuffisant, aussi bien sur le plan économique, social que écologique. Et donc il fallait revoir tout ça. Alors on a fait des photos montrant que les deux ministres siégeait, que cette on va dire que cette résolution finale a été adoptée à la quasi-unanimité, puisqu'il y a eu une seule voix contre, donc que les ministres, alors peut-être qu'un des deux ministres a voté contre, on ne sait pas, mais pas les deux. Enfin, on pense que c'est même pas les ministres, que les ministres ont voté la résolution. Donc, sans doute, Duflot et Coffin vont se faire tirer les oreilles au prochain Conseil des ministres.
Ah, ils ont les oreilles résistantes. Allez, un petit peu de culturel, social, politique pour terminer ce journal. On est le 27 mai, on l'a dit. Et le 27 mai, à cette heure-là, à Vaux-en-Velin, c'était à commencer à 18h, il y avait inauguration à l'angle de la rue de l'avenue Péry et de l'avenue Picasso, d'une place du 27 mai 43. Donc la ville de Vaux-en-Velin marque l'événement de cette journée du Conseil national de la Résistance dans sa commémoration. Pour les amateurs de sciences de bon niveau, demain soir, à la mairie du 1er, l'entrée qui est dans les escaliers, de 17h30 à 20h, le Cercle des rationalistes de Lyon et de sa région vous invite à une conférence publique « Communiquer avec la lumière ». C'est un peu pointu, c'est par Bernard Jacquier, directeur de recherche au CNRS à Lyon. Et il va évoquer pour vous la fibre optique, les capacités, les perspectives, les nouveaux développements à venir. Enfin, si cet aspect scientifique vous passionne, vous trouverez sûrement à alimenter tout votre intérêt. De mercredi au 29 au 2 juin, jazz à cour et jardin. C'est 30 concerts gratuits qui sont proposés dans une douzaine de lieux de jardin du 5e, mais plutôt sur Ménival, au-dessus. Enfin, en tapant sur Internet jazz à cour et jardin, vous aurez tout le programme en détail que je ne donnerai pas là. À Vaux-en-Velin, jeudi, vendredi, samedi, dans la solitude des champs de coton, c'est une création à la fois théâtrale, vidéo, sur le texte de Jean-Marie Coltès, à salle Charlie Chaplin, bien sûr. Puis il y a ce concert de country, donc du 31 mai, à 20h45, je recherche la 22e édition, à Salaise-sur-Sanne, oui, dans l'Isère. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Les 28e festival Parole en festival, 5 spectacles de contes et musique, c'est de ce jour 27 au 1er juin. Ça se passe à l'amphithéâtre de l'Opéra, sous l'égide. Donc des conteurs et des musiciens pour les petits et les grands. Brut de fabrique, c'est pas fini puisque ça dure jusqu'au 1er juin. Brut de fabrique, c'est à l'Iris. Un bon nombre de spectacles, de créations, plus ou moins terminées, plus ou moins en cours d'élaboration, mais qui permettent de découvrir des choses nouvelles et quelquefois très intéressantes qui prendront leur forme dans les mois ou les années à venir. Vous pourrez dire « J'y étais, je l'ai vu à sa découverte ». Et puis à Oulin, Matamor, du 30 mai au 7 juin, c'est un spectacle, différents spectacles, à partir de restitutions d'ateliers. Là aussi, difficile de donner tout le détail, mais Matamor, Oulin, vous pourrez trouver sur Internet beaucoup de renseignements complémentaires. Voilà, il nous reste quelques minutes, on les passe en musique où tu voulais... Ah, il y a deux comémo que je voulais faire, oui, parce qu'il y a le 27, mais le 28, c'est aussi une comémo. Elle est beaucoup moins sympathique. Le 28 mai 1802, qu'advint-il? Eh bien, Napoléon rétablit l'esclavage, après que la Révolution l'ait aboli. Enfin, officiellement. Il faudra quand même attendre 1848, 50 ans plus tard pratiquement, pour que cet esclavage soit définitivement aboli cette fois. Et puis le 29 mai 1913, un siècle jour pour jour, était créé à Paris par le Pierre Monteux à la direction de l'orchestre et les ballets Draguineff. morceau, enfin la pièce de Igor Stravinsky, Le Sac du Printemps, que vous entendez en fond sonore et avec lequel on va terminer notre journal, sauf si Robert a encore un mot à dire.
Non, on va croiser les doigts pour que les jours heureux surviennent.
Reviennent. Enfin, pas ceux de 43 quand même, c'était, la guerre était loin d'être finie. Mais c'était un beau titre qu'ils avaient trouvé, oui, pour ce qu'ils espéraient de la libération. On a été, et eux aussi d'ailleurs, bien déçus après. Mais enfin. Voilà, ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez le réentendre sur Internet. Et donc, c'est Le Sac du Printemps d'Igor Stravinsky, dirigé par Igor Stravinsky. C'est cette version-là que nous avons choisie pour célébrer le centenaire de la création de ce morceau. Bonsoir.